Il tombait des hallebardes à l'arrière saison. Il y avait des lézards au toit de nos maisons et de grands chevaux noirs qui ravageaient le ciel et trouaient nos mémoires de doutes éternels. Souviens-toi, le temps était au glas, aux larmes et aux frissons. J'ai tissé dans tes bras mon arrière-saison. On s'est battu alors à l'arrière-saison. Les orgues de la mort ont joué sur tous les fronts. On ne reverrait plus les cerisiers en fleurs, ni l'espoir abattu d'une bombe en plein cœur. Souviens-toi, la tristesse et l'effroi ont balayé nos fronts et labouré du doigt notre arrière-saison. Je suis parti un jour à l'arrière-saison, sans flûte ni tambour, sans rime ni pardon. Ma jeunesse perdue écartelait son ombre à la croisée des nues sur un lit de décombres. Souviens-toi, nos lettres sont écrites à la chair à canon et le sang sèche vite à l'arrière-saison. Et puis est reparue la nouvelle saison, et je suis revenu refaire la maison. On avait gros le cœur, on avait qui peut dire, c'était comme des fleurs qui n'avaient su mourir. Souviens-toi, comme on s'est embarqué vers le même horizon, et comme on s'est aimé à l'arrière-saison, et comment s'est aimé à l'arrière-saison.
Auditeurs et auditrices de Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission « Et pourtant ». Elle existe, cette littérature, qui est consacrée à la littérature prolétarienne. Émission dont la première séance a commencé en février et que depuis nous n'avons pas raté un seul rendez-vous. Donc une émission qui est réalisée par le Cercle culturel de littérature ouvrière, paysanne et sociale, qui publie une revue, Fragments, revue de littérature prolétarienne. Et en même temps, depuis peu, nous avons élargi un peu notre activité, puisque nous nous lançons, comme c'était prévu quand on s'est créé, constitué en début 2020, en maison d'édition, puisque nous avons sorti un premier livre dont je vous avais déjà entretenu, mais nous y reviendrons. La présence de l'auteur, ce n'est pas le monstre du Loch Ness, on y reviendra, je pense, début 2023 avec François Lebert pour son livre Ligne de front. Alors aujourd'hui donc à la technique, comme depuis 10 séances, Frédéric du groupe La Commune de Paris de la Fédération anarchiste. Voilà, alors au sommaire de notre rendez-vous aujourd'hui, nous avons un entretien avec une invitée, Michel, qui est déjà venu pour cette émission, et pourtant elle existe, la littérature, et elle nous parlera aujourd'hui, chose surprenante, de peinture, puisqu'elle a vu trois expositions dont elle va nous entretenir. Ensuite, je présenterai un livre, chaque émission je présente un livre, qui est un peu mon coup de cœur, et ce livre aujourd'hui, c'est le numéro 11 des cahiers Henri Poulaille, intitulé « Un demi-siècle d'amitié entre Poulaille et le peintre Joseph Lacasse et son œuvre ». Donc, vous voyez que c'est un rendez-vous qui est sur le signe de la peinture, du travail artistique, pictural, mais ça rentre tout à fait dans le cadre de l'approche réductrice de notre cercle, hein, qui a comme objectif toutes les formes d'expression qui sont témoignages d'un art venu d'en bas, d'une expression venue d'en bas, créatrice, authentique, et qui relève du domaine social. Voilà. Donc, pour bien préciser ça, et justement, mais je reviendrai tout à l'heure, la parution du cahier 11 des cahiers Henri Poulaille vraiment confirme tout à fait cette orientation que l'on développait de manière parfois un peu intuitive, mais là qui prend forme parce que c'est vraiment très intéressant. Ensuite, nous aborderons le numéro 6, le sommaire du numéro 6 de la revue Fragments, hein, revue de littérature prolétarienne que vous pouvez trouver naturellement dans les bonnes librairies, dont Publico, pour Paris, et à laquelle vous pouvez également vous abonner. Je vous rappellerai les modalités pour ce faire à la fin de l'émission. Enfin, nous dirons quelques mots rapidement sur l'Assemblée Générale Annuelle du Cercle Culturel de Littérature Ouvrière, Paysanne et Sociale, puisque, comme toute association, nous nous devons d'un rendez-vous annuel pour faire le point sur nos activités et déterminer les axes de travail pour les mois et l'année à venir. Hein. Ça, c'est pas une nouveauté. C'était d'ailleurs la façon de travailler des syndicalistes révolutionnaires qui ont fondé la révolution prolétarienne. Hein. Chaque année, un plan de travail et des objectifs qu'on atteint ou pas, d'ailleurs, mais peu importe. En tout cas, on se les fixe et on tend à. Voilà. Alors, nous allons débuter cet entretien avec Michel. Mmh. Qui donc a visité différentes expositions picturales sur Paris et qui va nous présenter donc trois expositions. Tout d'abord, alors si j'écorche un peu le nom, il faut me reprendre, hein, celle consacrée à Oskar Kokoschka.
C'est ça. Hein,
c'est ça, c'est bon.
C'est bon.
Qui fait exposition Un fauve à Vienne, qui aura lieu jusqu'au 12 février 2023. Au Musée d'Art Moderne à Paris.
C'est ça.
Peintre autrichien, mais également poète, essayiste et dramaturge, qui est né en 1886 et mort en 1980. Il n'était pas loin des 100 ans. Il est associé donc au mouvement artistique et intellectuel de la Vienne du début du XXe siècle. Hein. Ça peut renvoyer aux écrits, par exemple, si on veut un peu approfondir cette période de Stefan Zweig, qui raconte effectivement toute la vie, l'effervescence qu'il y avait dans la capitale autrichienne à cette époque-là, à différents aspects, hein, littéraires, peinture, d'autres expressions artistiques. Donc, peux-tu nous dire, nous en dire un peu plus sur cet artiste, sur son parcours, tant personnel que sur le plan de sa création?
Tout à fait. Donc, c'est effectivement bien Oskar Kokoschka, qui fait partie du mouvement artistique et intellectuel de la Vienne du début du XXe siècle, et avec ses contemporains qui sont Gustav Klimt et Egon Schiele. Ses premières productions, en fait, sont un choc pour le public, et la critique le qualifie du plus sauvage entre tous. En réaction, en fait, il va se raser la tête pour ressembler à un bagnard, parce qu'il est toute sa vie, il va être en opposition, en fait, par rapport au système dominant. Donc, sa soif d'indépendance l'a tenu beaucoup à l'écart des mouvements d'avant-garde, ce qui explique la difficulté à l'intégrer dans les récits aujourd'hui balisés de l'histoire de l'art. C'est quand même quelqu'un, effectivement, qui est très en marge. Et je vous encourage vivement à aller voir son exposition parce que sa peinture ne ressemble vraiment à aucune autre. C'est un foisonnement de couleurs et de matières. Et il faut rester longtemps devant un tableau pour arriver à le décrypter et à comprendre de quoi il parle. Donc, il se qualifie en fait d'expressionniste. Parce que, dit-il, je ne sais pas faire autre chose qu'exprimer la vie. Et c'est tout à fait ce qu'on ressent en regardant ces tableaux, en fait, dans l'exposition. Il commence par faire, donc de 1904 à 1916, il va commencer par faire ce qui était typique de l'époque, des portraits de personnalités de la société viennoise. Parce que c'est comme ça que les artistes vivaient à l'époque et qu'il fallait bien démarrer.
Et sa création est vraiment centrée sur la vie à Vienne à cette époque-là.
Oui, voilà, sur la vie à Vienne à cette époque-là, avec ces personnages-là. Et en fait, beaucoup de ces portraits vont être refusés par les mandataires parce que les modèles refusent absolument le regard qu'ils portent sur eux. Il a une façon très particulière d'arriver à décrypter ce que sont les gens. Et en fait, beaucoup de grands bourgeois ne veulent pas se reconnaître dans ces tableaux qui sont pour le moins, on va dire, critiques, en fait, par rapport à eux. Donc, il a beaucoup de commandes, mais en fait, les modèles refusent. Et heureusement qu'il a un ami architecte, dont je dirai le nom tout à l'heure, parce que je ne l'ai plus là tout de suite, qui va l'aider toute sa vie et qui va récupérer tous ces portraits qui ont été refusés, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous les regarder, en fait, ce qui est quand même très bien.
Seigneur, ça veut dire que c'est des œuvres qui ont été...
Les gens ne les ont pas voulu.
On dirait blacklistés aujourd'hui.
C'est ça.
Et non exposés, en fait, à ce moment-là.
Et non exposés, et personne n'en voulait. Et heureusement que cet architecte, qui était son ami et qui l'a financé presque toute sa vie, parce qu'évidemment, il a eu une vie quand même assez difficile. Bien sûr, et il a mis beaucoup de temps avant d'être reconnu. En gros, il a été reconnu qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout temps, il fallait bien qu'ils vivent, et tous ces tableaux donc étaient récupérés par cet ami, et on en voit certains dans l'exposition d'ailleurs. Voilà. Il est déclaré inapte au service militaire en 1916-1923, et il traverse à ce moment-là une forte dépression qui est liée à la guerre, bien évidemment. Il rencontre à cette époque Alma Mahler, qui est la veuve donc du musicien Mahler, avec lequel il va rester pendant 2 ans, et cette femme va énormément le marquer, à tel point qu'il va faire réaliser par une artiste une poupée qui lui ressemble, une poupée grandeur nature, qui va garder pendant plusieurs années. Donc c'est assez curieux de voir cette poupée et de voir comment il va essayer de se réparer avec elle, en fait. Il va ensuite prendre un poste de prof à l'Académie des Beaux-Arts de 1919 à 1923. Puis ensuite, il va démissionner, il quitte son poste d'enseignant lors du décès de son père, et il va voyager, et il va venir séjourner à Paris, parce qu'en fait, son art n'est toujours pas reconnu à Vienne, et même, il aura des toiles lacérées lors d'une exposition par un visiteur qui supporte pas du tout ni sa peinture, ni ce qu'elle représente.
C'est-à-dire que tu parlais de dépression, par exemple, au moment de la guerre, etc.
Oui, oui.
Et la guerre ne l'a pas du tout inspiré dans ce...
Non, alors, la guerre l'a inspiré, mais plus tard, quand il sera en exil en Angleterre. Je vais en parler à ce moment-là, après. Donc, c'est là où il est soutenu financièrement par son galériste. Et il voyage à travers l'Europe, l'Afrique du Nord, puis l'Orient. Et il tente de se faire connaître à Paris et à Londres, mais c'est toujours difficile. En 1931, il fait sa première expo à la galerie Georges Petit, à Paris, qui soulève une critique enthousiasme, alors pour le coup, à Paris, ce qui est très bien, mais le contexte économique se dégrade, et il retourne en
1931. En quelle année tu disais ça?
C'est en 1931.
D'accord.
Mais il retourne quand même en grande difficulté en 1932 à Vienne. Et c'est là où, en fait, il trouve alors sa ville en proie à de graves troubles politiques liés à l'ascension du fascisme. Donc, en 1934 et 1938, c'est la période de résistance à Prague. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il s'engage publiquement contre le nazisme. En mai 1933, il dénonce la démission contrainte du peintre Max Liebermann de l'Académie des Beaux-Arts de Prusse en raison de ses origines juives. Il s'oppose, mais il est encore effectivement en grande difficulté financière. Donc, il émigre à Prague, où réside sa sœur. Et là, il va rencontrer sa femme, qui est étudiante en droit. Depuis la Tchécoslovaquie, il voit le piège du nazisme se refermer progressivement sur l'Europe. Il publie de nombreux articles, puisqu'il est en même temps dramaturge, poète et écrivain, et il organise des conférences partout pour alerter tout le monde sur ce danger. À ce moment-là, les nazis organisent l'exposition itinérante de l'art dégénéré, et les nazis exhibent 9 de ses peintures dans cette exposition d'art dégénéré, en même temps que de nombreux chefs-d'œuvre de l'avant-garde européenne. Hein, on le sait, à l'époque,
être connu par l'institution nazie.
Ah oui, là, ils voulaient plus, de toute façon.
De l'art dégénéré, oui. C'est une forme de reconnaissance, quelque part.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est le paradoxe.
À part que, là, quand même. Alors, il y répond par un magistral autoportrait d'artiste dégénéré, voilà, qu'on voit dans l'exposition. Mais surtout, ce qui lui fait un grand préjudice, c'est que ses toiles sont vendues par les nazis. Et l'argent, bien sûr, il le garde pour contribution à l'effort de guerre nazi, ce qui est quand même un peu fort dans la mesure où il lutte contre eux depuis le départ. Donc là, financièrement, effectivement, il est quand même très, très atteint, parce que ses toiles commençaient à être un peu reconnues, entre autres en France, et qu'en fait, on lui pique tout, quoi. Voilà. De 1938 en 1946, donc là, il peut plus tenir comme beaucoup d'autres, hein, et il s'exile en Angleterre. Il vit dans un profond dénuement avec sa femme et il continue à peindre. Et là, dans l'exposition, on voit bien, il a très peu de couleurs et il a des toutes petites toiles parce que, effectivement, et d'abord, il n'a pas d'argent pour s'acheter de quoi peindre et aussi parce que c'est la période de restriction et que donc on trouve plus le matériel nécessaire. Donc, dans l'exposition, on voit des tout petits tableaux avec très peu de peinture alors que les premiers on croule sous les amas de peinture, en fait. Et à ce moment-là, il va réaliser une série d'œuvres allégoriques sur le basculement de l'Europe dans la guerre. Et c'est vrai que c'est vraiment elles sont très, très intéressantes à voir, parce que ces toiles constituent un témoignage unique, dans la peinture en tous les cas, sur la traversée de cette époque dramatique et il recourt à de multiples registres, qu'ils soient mythologiques, satiriques ou encore populaires, et fait voler en éclats les classifications traditionnelles de la peinture.
C'est une production qui est faite. Il a passé la cinquantaine, lui, à ce moment-là.
Oui, c'est ça, à partir de l'Angleterre.
D'accord, voilà. En Angleterre,
c'est ça. Il réalise aussi des affiches qu'il fait placarder sur les murs dans les rues, en fait. Il continue sa lutte comme il peut, en fait, même en exil, contre le nazisme, parce que ça l'a atteint énormément en tant qu'Autrichien de voir son pays basculer dans cette fracture de l'histoire, en fait. Hein, voilà. En 1947, il obtient la citoyenneté britannique et il peut à nouveau circuler à travers l'Europe, parce que bien sûr, il ne pouvait pas sortir d'Angleterre. Il refuse toutefois de s'installer à Vienne. Cette même année, une grande rétrospective de son œuvre est organisée à Bâle, qui le consacre comme artiste majeur et acteur incontournable de la reconstruction culturelle européenne, puisqu'il est reconnu comme celui qui, depuis le début, en fait, a lutté et a essayé d'alerter l'Europe sur ce qui était en train de se passer. De 1946 à 1980, il est en Suisse. Il fait le portrait de personnalités politiques, de grandes personnalités politiques de l'époque. Là, les tableaux, les portraits ne sont pas refusés, en fait, parce qu'ils sont beaucoup moins critiques aussi. Et il s'implique dans de nombreux projets et œuvres à Salzbourg en 1953, où il ouvre une école du regard. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est un peu le résultat de tout ce qu'il a vécu avec cette montée du nazisme, où il n'a pas arrêté d'alerter tout le monde. Et il dit qu'en fait, à travers ça, il dit qu'on ne sait pas regarder, on ne sait pas voir ce qui est en train d'arriver, on a des voiles sur les yeux, on refuse de voir la vérité, on refuse de voir la réalité, et donc il ouvre, c'est une école de peinture, hein, mais qui est une école du regard pour qu'on apprenne à... Et c'est vrai que c'est le rôle de la peinture, d'apprendre à voir à tous les niveaux, avec l'œil physique, mais aussi avec tous les yeux cérébraux qu'on peut avoir et qui consistent à voir bien la réalité telle qu'elle est et non pas telle qu'on a envie de se la raconter. Voilà.
Donc il vit à ce moment-là, pardon, au Luxembourg.
En Suisse,
d'accord. Ah, voilà. Oscar Kokoschka, c'est bien ça.
C'est un fervent européen et c'est un défenseur d'un continent unifié. Alors ça, on peut être d'accord ou pas, mais vu ce qu'il a vécu, on comprend mieux pourquoi il est défenseur de l'Europe. Et il croit surtout en la puissance subversive de la peinture, qui pour lui est un vecteur d'émancipation et d'éducation. Et il demeurera inébranlable jusqu'à sa mort dans cette philosophie, en fait. Et c'est vrai que la peinture peut être un vecteur d'émancipation, comme l'écriture, comme. Donc, je rappelle l'exposition. Donc, c'est au musée. Alors, c'est Un Fauve à Vienne. C'est au musée d'art moderne à Paris. Et c'est jusqu'au 12 février 2023.
D'accord, donc Michel vient de nous présenter l'exposition consacrée donc à Oscar Kokoschka, hein, on est bien d'accord,
c'est ça.
Peintre engagé, oui. qui a une vie sous le signe de l'exil, un peu,
c'est ça.
Contraint et forcé, oui. Par les conditions politiques créées par le nazisme,
c'est ça.
Et qui a fait de son pinceau une arme, quoi.
C'est ça.
Mais il y a aussi des parallèles avec Stefan Zweig, je trouve,
oui.
Qui lui a été confronté
à
une réflexion et oui. Finit par se suicider en 1942,
oui.
Je crois,
oui.
Au Brésil.
Oui.
Voilà, donc, merci pour cette première présentation. Nous n'avons pas fini avec les expositions, il y a d'autres regards à découvrir. Nous allons maintenant donc aborder l'exposition qui est intitulée Alice Neil ou Neil. D'accord. Un regard engagé qui se tient au centre Georges Pompidou à Paris.
C'est ça.
Ceci jusqu'au 16 janvier 2023. Donc,
c'est ça.
Qui est cette personne et quelle est sa trajectoire personnelle pour entamer notre échange.
Alors, Alice Neil, elle naît le 28 janvier 1900, c'est vraiment une enfant du 20e siècle, en Pennsylvanie. Elle va être très longtemps ignorée de son vivant, en fait, elle aussi, hein, je tiens, parce qu'on verra plus tard que, effectivement, ses thèmes picturaux ne sont pas dans les thèmes traditionnels. Et aujourd'hui, elle s'impose comme une figure majeure de la peinture américaine et elle est décédée en 1980. Je vous redirai ça tout à l'heure. En fait, c'est une femme qui a toujours fait une peinture lutte de classe. Voilà. Elle est américaine. Elle s'est installée dans les quartiers de New York, qui étaient plutôt Harlem, ou qui étaient plutôt les quartiers noirs ou espagnols ou des choses comme ça. Elle a fait beaucoup de portraits des gens de la classe ouvrière et populaire qui étaient dans ces quartiers-là, d'où le fait qu'effectivement, à l'époque, cette peinture intéressait peu de monde, particulièrement en Amérique, en fait. Donc elle dit, alors son exposition, il y a énormément de portraits, entre autres, il y a le portrait de l'avocat de Sacco Vanzetti qu'elle a peint. Elle-même n'aimait pas du tout le mot portrait, parce que pour elle, c'était un genre architecturale qui était réservée à l'aristocratie. Et elle disait qu'elle ne faisait pas des portraits, mais qu'elle faisait des images des gens. Et c'est vrai que, en fait, c'est complètement différent. Parce que quand on regarde ces portraits, tout au moins ces images des gens, eh ben, en fait, on est le spectateur qu'on est confronté au regard de ces gens dans les portraits qui nous regardent droit dans les yeux. Et ils s'instaurent, ils sont vraiment très vivants et ils s'instaurent comme un dialogue, un échange entre nous. Et c'est vrai que j'ai rarement vu des images de gens faites de cette façon-là.
Et c'est une petite question juste comme ça qui me vient. Cet intérêt pour la classe ouvrière, les couches populaires, on va dire, ou même les ghettos, il vient. C'est le résultat d'une origine particulière ou d'une démarche
surtout,
intellectuelle.
C'est surtout. Parce qu'elle était sympathisante communiste, d'accord, en fait, hein, voilà. Et qu'elle a eu d'ailleurs un peu des ennuis en 1951, que voilà, elle a été auditée par les services américains pour son appartenance. Donc elle était très proche des communistes, et toute sa vie, en fait, tout au long de sa vie, elle s'est intéressée aux injustices et aux inégalités, en épinglant autant la ségrégation raciale que la discrimination des homosexuels, par exemple. Elle se définit comme la peintre des invisibles, des marginaux et des délaissés. Voilà. Donc, pour elle, c'était ça qui était le plus important. Elle est aujourd'hui reconnue comme une icône aussi du féminisme. Peut-être pas tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais en fait, parce qu'elle a fait, vous verrez dans l'exposition, ses nus féminins sont peints sans concession. Et ils sont peints avec un réalisme vraiment magnifique. Et en fait, elle dit qu'à travers ces tableaux, ce qu'elle voulait montrer, c'était que la femme se réappropriait son corps. Et que donc, ce corps-là, il existait tel qu'il était, et il n'y avait pas besoin de ces figures de magazine, où le corps de la femme est exposé comme un objet de, je sais pas quoi, d'art ou de je sais pas quoi. Elle, c'est des corps de la vie de tous les jours. Les mains de ces femmes, entre autres les mains des femmes ouvrières, sont des mains qui sont abîmées, des ongles cassés, des rides, des... Voilà, elle a montré les choses, mais en disant, ben voilà, nous, en fait, on est comme ça, notre corps, il est comme ça, et notre corps, il est à nous. Donc, c'est comme ça que les féminismes la reprennent comme une icône féministe. En fait. Alors, l'exposition est structurée autour de deux thématiques. D'abord, la lutte des classes dans la première partie, et ensuite la lutte des sexes dans la seconde. C'est vrai qu'à travers... Alors, l'exposition s'appelle « Alice Neal, un regard engagé ». Parce qu'elle explore les dimensions politiques et sociales de l'œuvre. C'est une femme indépendante pour qui l'acte de peindre s'est mû en une recherche de la vérité, et c'est un acte politique pour elle, la peinture. En même temps, il y a dans l'exposition une sélection de documents qui sont issus de ses archives personnelles, ainsi que des extraits de films sur l'artiste qui complètent. C'est la toute première présentation à Paris, alors ne la ratez pas, en fait, il faut vraiment aller la voir. Voilà.
Et quel a été son statut, disons, en termes d'audience, de reconnaissance de son...
Alors, elle a été, je te dis, elle vient juste d'être à peu près reconnue maintenant, d'accord, en fait. Hein. Si c'est la première exposition à Paris, c'est aussi justement grâce à cette reconnaissance.
Et y compris aux États-Unis.
Mais même aux États-Unis. Oui, parce qu'en fait, elle peignait des sujets qui n'intéressaient pas ni les musées, ni le marché de l'art, en fait, hein, avec ces images de gens populaires, ouvriers, des quartiers les plus réprouvés de New York. Donc, elle n'intéressait personne, mais en fait, effectivement, elle est en train d'arriver, et manifestement, c'est surtout par son aspect icône féministe qui lui permet de revenir en fait comme peintre, mais c'était un peintre beaucoup plus large que le féminisme simplement en fait.
Ouais, hein. Moi j'ai pas vu l'exposition, hein, mais ce que tu décris, moi ça m'évoque un peu des photographes,
oui,
qui ont pris un peu une démarche un peu similaire.
C'est ça.
Notamment dans les années de dépression. Notamment des femmes qui ont fait des photos magnifiques de la dépression aux États-Unis.
Et oui.
J'ai l'impression qu'il y a un peu comme un écho en peinture.
C'est ça.
Voilà.
Heureusement qu'il y a eu quand même quelques artistes qui se sont photographes ou peintres, ou aussi en littérature, hein, qui en fait ont su étudier cette période-là, en fait, des États-Unis ou d'ailleurs, et nous rendre aujourd'hui, hein, une vision plus exacte de l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que en fait, si on restait en superficie, soit au niveau du marché de l'art, soit sur la littérature, traditionnelle, on n'aurait certainement pas ces regards beaucoup plus percutants et beaucoup plus réalistes, en fait.
Oui, le point commun, on retrouve dans ce que tu as évoqué rapidement, c'est le maccartisme.
C'est ça.
Dans les années 50, c'est-à-dire qu'on retrouve devant McCarthy,
oui,
on retrouve des gens comme elle.
C'est ça.
Alice Neal, mais on retrouve des auteurs de romans policiers comme Hammett.
Oui, c'est ça.
Et on retrouve des cinéastes, voire Charlie Chaplin qui
c'est ça aussi.
Et d'autres, hein, qui sont inquiétés pour leur travail artistique.
Pour leur travail artistique. Et là, je vois dans la plaquette sur elle, en 1955, elle est interrogée par les agents du FBI en raison de ses liens avec le Parti communiste, et elle était surveillée depuis 1951. Donc, effectivement, il leur laissait rien passer, quoi.
Hein, oui, voilà.
Et personnellement, c'est une femme qui a eu aussi quand même une vie assez, assez compliquée, avec des compagnons qui l'ont abandonnée, avec des enfants dont elle a été séparée, puisqu'un de ses compagnons est parti avec une de ses filles. Et elle a vécu ça très mal. Donc elle a aussi fait une dépression assez importante. Enfin, au niveau personnel, elle est engagée à tous les niveaux, cette femme, je dirais, au niveau personnel, mais au niveau pictural aussi. Enfin, elle a eu une vie, mais voilà, comme un peu la vie d'Oscar Cocotia, comme la vie de Frida Kahlo qu'on va voir, ce sont des gens hors du commun qui ont des vies dans lesquelles ils payent largement leur sens de l'engagement, en fait.
Absolument, et on voit que dans le système capitaliste, en fait, l'art est sous contrôle, tenté et contrôlé.
C'est ça.
Et à ceux qui pensent que le libéralisme, c'est la liberté artistique et de création, c'est un peu plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué
et
que
voilà.
Ça. Oui,
mais écoute, je crois que
juste une dernière phrase, parce qu'elle est en exergue dans l'exposition sur un grand tableau, et elle dit « En politique, comme dans la vie, j'ai toujours aimé les perdants, les outsiders, cette odeur de succès, vraiment, je ne l'aimais pas. »
Très bien.
Voilà.
Nous allons donc faire une petite pause musicale pendant laquelle vous pourrez écouter la chanson et méditer sur cette phrase. Donc nous allons écouter « Vendredi » de Georges Chenon.
Tout à l'heure elle était en haut, maintenant elle est tout en bas. Comme une pierre qui roule et ne s'envole pas. On était pourtant bien, aujourd'hui, vendredi. Et j'ai marché tout seul sur les quais de Paris. Je t'appelle silence et tu me fais parler. Je t'appelle romance et tu me fais chanter. On était pourtant bien, aujourd'hui, vendredi. Et je ne t'ai pas vu sur les quais de Paris. Toi en qui un jour j'ai vu tout le connu et l'inconnu. Toi qui m'as soulevé. lever de terre m'a montré un monde à l'envers. Dis-moi pourquoi ce soir je ne suis pas avec toi. Tu m'as fait croire en des miroirs, je m'y voyais même dans le noir. Les bateaux ont perdu leurs ailes, alors je suis tombé du ciel. Dis-moi pourquoi ce soir je ne suis pas avec toi. Et j'étais tout en haut, me voilà tout en bas. Je suis la pierre qui roule mais ne s'envole pas. Pour moi, chaque semaine était un vendredi. Je marchais avec elle sur les quais de Paris. Je t'appelais, je t'aime, c'était simple mais vrai. Je t'appelais, je rêve, je me suis réveillé. Et pour moi, les semaines n'ont plus de vendredi. Il n'y a plus de quai pour la Seine à Paris. Toi en qui un jour j'ai vu tout le connu et l'inconnu. Toi qui m'as soulevé de terre, m'as montré un monde à l'envers. Dis-moi pourquoi ce soir je ne suis pas. Tu m'as fait croire en des miroirs, je m'y voyais même dans le noir. Les bateaux ont perdu leurs ailes, alors je suis tombé du ciel. Je sais pourquoi ce soir je ne suis pas avec toi.
Sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni nationalité, à l'écoute de l'émission Et pourtant, elle existe, cette littérature, la littérature prolétarienne. Et aujourd'hui, nous parlons essentiellement de peinture. Alors, nous allons retrouver Michel, qui là va nous parler d'une nouvelle exposition qui, personnellement, moi, me fait plus d'écho, hein, que je connais un peu plus comme, comme artiste, qui est l'exposition Au-delà des apparences, qui est consacrée à Frida Kahlo et qui a lieu au Palais Galliera à Paris jusqu'au 5 mars 2023. Donc, Michel, qui est Frida Kahlo pour les auditeurs et les auditrices de Radio Libertaire qui ne la connaîtraient pas et ses origines.
Oui, donc Frida Kahlo, alors qui est un peu plus connue quand même en France, oui, parce que ça fait plus longtemps qu'elle est reconnue comme un grand peintre, mais qui a aussi une histoire très singulière et qui est aussi quelqu'un qui a toujours été révolutionnaire, on va dire, et dans sa vie et dans son art. Donc Frida Kahlo, elle est née en 1907 à Coyoacán, voilà, au sud de Mexico, à la Casa Azul, qui en français veut dire la maison bleue, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle est morte en 1954. Donc c'était la maison en fait de sa famille, cette Casa Azul, qu'elle a repris ensuite avec son mari et qu'ils ont toutes repeint en bleu, d'où le nom de la maison bleue, qui existe toujours effectivement à Mexico et qui est aujourd'hui donc un musée. En fait, l'exposition qui a lieu au Palais Galliera a ceci de particulier que c'est une présentation de Frida Kahlo à travers ses objets, à travers ses robes, mais il y a très très peu de peintures et de tableaux qui sont, bon, parce que d'abord c'est une artiste beaucoup plus connue, mais aussi parce que le Palais Galliera à Paris est aussi le musée de la mode, en fait.
D'accord. Voilà. Je reviens juste sur un petit point. Tu as des informations sur ses origines, dans quel milieu elle est?
Oui, alors elle était plutôt d'un milieu enseignant, aussi bien, d'accord, je pense que son père était enseignant. Alors, je vais vous dire. Voilà. Son père, elle, alors, elle, sa mère est d'origine autochtone et son père est allemand. C'est un photographe et il est le premier à capturer les différentes facettes de la jeune Frida. Voilà. D'accord. Donc, c'était un milieu populaire, mais voilà. Peut-être un peu plus aisé que. Voilà, mais c'était des gens issus du milieu populaire. Voilà. La casa Azul, on va rester sur sa maison parce qu'elle est importante dans, dans l'exposition. Donc, avec son mari Diego Rivera, il la rénove dans les années 30. Ils repeignent les murs gris dans un bleu éclatant et ils remplissent leur maison d'objets reflétant leurs attachements à la culture mexicaine, notamment l'art populaire. Voilà, donc je vais développer un peu plus là-dessus. Parce que la Casa Azul va devenir un centre culturel attirant des personnalités venues au Mexique, parmi lesquelles Léon Trotsky, lorsqu'il a fui Staline et l'URSS, et André Breton à la fin des années 30, lorsqu'il a commencé à entamer son tour du monde. Donc, ils ont accueilli Léon Trotsky. La petite histoire dit qu'ils ont eu une histoire certainement ensemble pendant quelques mois. Et quant à André Breton, donc chef de file des surréalistes, on ne peut pas dire qu'elle avait une image très, très bonne de lui. D'abord parce qu'il a un peu raté son exposition qu'elle devait faire à Paris et il l'a tellement mal organisée que son exposition s'est quasiment pas faite, quoi. Donc elle lui en voulait quand même beaucoup. Il faut dire que Frida Kahlo a eu en fait qu'une seule exposition juste un an avant de mourir, hein. Donc elle aussi, je veux dire, on est toujours sur des personnages qui en fait ne sont pas reconnus quand même tout de suite, hein. Donc, en fait...
petite précision.
Oui.
Donc, en fait, au moment où il y a la Révolution mexicaine...
Voilà, j'allais arriver, voilà.
Voilà, qui éclate, c'est en 1910, hein, c'est mon mari bonne.
Oui.
Et est-ce que ça a joué un peu sur son...
Alors,
pas du tout, son travail artistique, parce que tu as parlé de... d'un engagement révolutionnaire constant
c'est ça.
Chez elle.
Voilà.
Est-ce que c'est là
Et c'est là où il est né. Voilà. Donc, ce qui est appelé la mexicanité, en fait. Hein. La révolution mexicaine a éclaté en 1910, suite à des élections, à des résultats d'élections truqués. Et la décennie suivante est marquée par des troubles politiques, des conflits et des soulèvements armés à travers le Mexique. En lutte contre les grands propriétaires, spéculateurs et puissances étrangères, les insurgés exigent une réforme économique et sociale généralisée au profit du peuple mexicain. Et Frida Kahlo va faire de 1910, son année de naissance, en fait. Elle dit qu'elle est née à ce moment-là et son art, et on verra après, va partir aussi de cette révolution, en fait. Hein. Voilà. Donc, en fait, lors de cette révolution, les artistes mexicains ont forgé eux-mêmes leur propre révolution, qui s'appelle la Renaissance mexicaine. Ils se sont tournés vers leur pays pour trouver l'inspiration et créer de nouvelles formes d'art public célébrant la diversité ethnique et historique de leur pays. Frida Kahlo était particulièrement... Alors, chacun a choisi un peu une région de son pays qui l'attirait plus. Et Frida Kahlo était particulièrement attirée par l'isthme de Tehuantepec, réputé pour sa société matriarcale et la richesse de ses traditions autochtones. Alors c'est vrai que Frida Kahlo est aussi une figure féministe majeure, en fait, hein, non seulement comme artiste, mais en fait aussi comme femme, hein, où elle a vécu ou tenté de vivre avec son mari ou sans, une vie la plus libre possible telle qu'elle l'entendait, en fait, voilà. Bien que Frida Kahlo ne soit jamais allée dans cette région, elle a fait des costumes de cette région, une partie de son identité, et s'est formée une image emblématique, la Tehuana. Et en fait, c'est ce qu'on voit dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a toutes les robes, châles, corsages, voilà, de cette région qui sont exposées, parce qu'à partir de ce moment-là, elle va toujours s'habiller en vêtements populaires de cette région-là. Donc, ce sont des vêtements très, très joyeux, tissés, très joyeux, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de rubans, beaucoup de volants, voilà. Alors, si elle fait ça, c'est d'abord parce qu'effectivement, elle fait partie de cette renaissance mexicaine en art pictural depuis la Révolution mexicaine, mais c'est aussi parce que personnellement, elle a eu quand même beaucoup d'accidents physiques. Le premier, c'était quand elle était toute petite, elle a été atteinte de poliomyélite, donc elle avait déjà une marche claudiquante assez importante avec des chaussures orthopédiques adaptées, puisque effectivement, elle avait une jambe à moitié paralysée. Mais le pire n'était pas arrivé, puisque en fait, elle va avoir un accident de bus en rentrant du lycée, voilà, et elle est grièvement blessée, alors qu'elle était dans le bus, hein, c'était un des passagers, mais elle est grièvement blessée et elle va être transpercée par une barre en fer qui, entre autres, va lui traverser l'utérus et qui va faire que de toute sa vie elle ne pourra pas avoir d'enfant malgré son désir et malgré le désir de son mari. Et elle va en avoir des séquelles terribles, d'abord parce qu'à l'époque réparer quelqu'un qui était abîmé comme ça, c'était pas simple, on savait pas bien faire en fait, et elle va avoir des séquelles physiques tout au long de sa vie avec une souffrance physique énorme, puisque dans l'exposition on voit effectivement aussi tous les médicaments, les opiacés qu'elle a été obligée de prendre tout au long de sa vie pour résister à la souffrance. On voit aussi
Ça lui arrive assez jeune, hein, tu dis.
Oui, elle a 18 ans, je crois.
18 ans, oui, d'accord.
Voilà,
oui,
c'est
d'accord.
Ça. Ouais. Ça lui arrive très jeune. En fait, alors bien sûr, elle est obligée d'arrêter ses études, parce que de toute façon, elle ne peut plus rester debout. Et elle est obligée d'être alitée avec des corsets et avec des systèmes de traction, avec des poulies. Enfin bon, c'est tout un arsenal assez impressionnant. Et ses parents, pour la distraire, enfin pour l'aider, installe au-dessus de son lit, avec des câbles, installe un grand miroir, et c'est là où elle va commencer à peindre, en fait, en étant alitée et en ayant comme modèle elle. Voilà, parce qu'elle peut pas en avoir d'autres, en fait. Elle peut pas bouger dans son lit et elle voit le plafond à longueur de temps. Donc, en fait, elle va commencer à peindre là. Et en fait, certains reprochent à Frida Kahlo que sa peinture est faite de beaucoup d'autoportraits, ce qui est vrai. Il y a énormément d'autoportraits de Frida Kahlo qui expriment toujours une souffrance terrible. Hein. Ces tableaux sont vraiment très cruels, hein, pour certains à regarder, en fait. Mais ils expriment simplement la souffrance qu'elle a vécue toute sa vie. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand même injuste de lui reprocher ses autoportraits, parce que Frida Kahlo quand même est restée beaucoup seule, hein, longtemps.
Et mais elle ne passe pas sa vie alitée, quand même.
Non, elle ne va pas passer sa vie alitée, ouais, mais là, les premières années, voilà. Donc, en fait, elle a centré sur elle, mais c'était aussi les circonstances qui faisaient bien qu'elle sûr. Était obligée de centrer sur elle. Voilà.
S'il y a des auditeurs, des auditrices qui souhaitaient un peu approfondir en dehors de l'exposition, je crois que c'est sur Arte ou sur la 5, je ne me souviens plus. Il y a quelques semaines, il y a eu un film, un reportage consacré à Frida Kahlo.
À Frida Kahlo. Voilà.
Concrètement, des images de cette période que tu évoques.
Oui, oui, oui. Voilà. Et puis il y a des livres, hein, qui ont été écrits sur sa vie aussi. Et puis il y a un film, effectivement, que moi j'avais vu, mais il y a plus longtemps, où on a bien l'histoire de sa vie, en fait.
Donc tu disais que c'était consacré donc à une peinture centrée sur elle-même, mais aussi à cultiver arts populaires aussi. Le costume, c'est aussi une forme d'identité autochtone.
Tout à fait.
Sa mère était autochtone, donc là, il y a une continuité. Et tu as évoqué c'est une, enfin, plus tard, la rencontre avec Trotsky.
Diego Rivera.
Et c'est c'est aussi la conséquence de Diego Rivera, qui est
bien sûr un muraliste,
un artiste engagé, lui.
Un grand muraliste mexicain qui a fait des grandes fresques qui lui ont été commandées par les gouvernements après la Révolution mexicaine, et qui a fait, enfin, c'était vraiment un muraliste très très réputé, et avec ses grandes fresques sur justement la classe ouvrière et la classe populaire, bien sûr, bien sûr. Et elle a été élève de Diego Rivera quand elle a pu après se relever et tout ça. Donc elle a fait des études de peinture et elle a été élève de Diego Rivera, et là effectivement elle l'a épousé, et comme il était aussi lui dans le Parti communiste, elle a rejoint le PC, le Parti communiste, en 1928 en fait. Et là elle a été encouragée par une photographe, tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, une photographe et militante qui s'appelle Tina Modotti, dont personne ne parle absolument jamais, mais qui a eu sur elle un rôle très très important dans son engagement, non seulement artistique, mais surtout politique. Voilà. Donc, en fait... Donc, au début des années 20, le ministre mexicain, donc c'est ce que je disais, de l'éducation, recrute les plus grands artistes du pays, donc Diego Rivera, pour créer une forme d'art public, en fait. Ainsi débute le mouvement muraliste mexicain. La première commande de Diego Rivera est pour l'école préparatoire nationale, où Frida Kahlo est alors étudiante. Et brillante et véhémente, elle fait partie des groupes politiques. Alors, ça s'appelle Los Cachuacas. C'est le nom des casquettes à visière que portaient ses membres. Donc là, ses études vont s'arrêter, mais quand même, après, elle va continuer à être en relation avec Diego Rivera, et donc elle va l'épouser. Et ensuite, donc, ils vont faire en 1929, donc ils se marient. Et ils vont faire de nombreux voyages, parce que là, lui, beaucoup plus qu'elle, d'ailleurs, est quand même reconnu comme un grand artiste, en fait, mexicain. Donc, ils font de nombreux voyages aux États-Unis, entre autres. Et elle est très étonnée par ce qu'elle découvre, et elle dit qu'elle ne comprend pas bien comment les gens du peuple peuvent supporter ce qu'ils vivent aux États-Unis. Donc elle garde un regard très très critique là-dessus, et elle aime, bon, enfin elle aime pas du tout, hein. Donc pendant qu'ils sont à Détroit, elle est enceinte. Elle frôle la mort par hémorragie puisqu'elle peut pas avoir d'enfant, et c'est à l'hôpital elle va commencer à transformer ses expériences douloureuses en art. Et c'est vrai que Frida Kahlo, c'est la résilience, c'est-à-dire c'est comment, à partir de quelque chose qui me fait très mal, je vais le dépasser pour arriver à quelque chose de positif et de constructif. Toute l'exposition au Palais Galliera. Et là-dessus, en fait, on voit par exemple ses corsets. Elle a eu de nombreux corsets en plâtre, hein, qui l'ont accompagnée toute sa vie. Et ben, elle peignait ses corsets, c'est-à-dire qu'elle se les appropriait comme une partie de son corps. Et on voit tous ses corsets. Elle a peint sur le plâtre. On voit tout ce qu'elle a fait avec. Et en même temps, comme elle avait choisi ses robes mexicaines autochtones, qui étaient assez larges, assez vastes, elle pouvait en même temps cacher ses difformités physiques, en fait. Mais elle a su s'approprier cette
Tu as dit de manière positive, c'est pas du tout un regard misérabiliste.
Ah non,
c'est,
du tout.
C'est important à souligner, parce que
c'est vraiment une histoire de guerrière, quoi, hein. Elle a lutté tout le temps pour être, d'ailleurs elle disait, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de jambes puisque j'ai des ailes, enfin je veux dire, elle a tout transformé. Elle a tout transformé dans quelque chose, quand je dis positif, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment la guerrière qui veut transformer un événement qui lui a fait très mal, ou des événements, en quelque chose qui vont la renforcer, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment... Enfin, l'exposition est vraiment très belle. Alors, quand on voit l'exposition, effectivement, on voit la souffrance, parce qu'on voit les pieds beaux, on voit les chaussures orthopédiques, on voit les corsets, on voit tous les médicaments qu'elle prenait et tout. Mais en fait, c'est l'histoire vraiment de sa résilience hein, qui est quand même importante. Et elle a fait des très très beaux tableaux sur justement les fausses couches qui sont moi je trouve magnifique quoi, comment elle a su rendre ça comme quelque chose de visible, parce que quand même à l'époque aller peindre une fausse couche, je veux dire, c'était quand même pas simple. Et là, elle nous confronte à ça et elle nous fait voir ça et elle nous dit, bah c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Donc là aussi, le fil commun entre les trois peintres, c'est bien aussi sur le regard et sur la réalité, hein, les trois en fait, hein, sur ces regards engagés, quoi, hein, sur qu'est-ce que je fais avec ça et c'est ce qui est passionnant dans leurs expositions.
Ce qu'il y a de, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est aussi après, bon, à la fin, c'est comme quoi les artistes à différents niveaux se rencontrent à un moment donné.
Oui.
C'est que tu as évoqué, c'est à la fin des années 30, l'exil de Trotsky,
oui.
qui va être assassiné par Staline quelques mois après,
oui.
qui est au Mexique. Donc il y a cette rencontre
oui.
Avec Breton, avec Diego Rivera. Si ma mémoire est bonne, je ne sais même pas s'ils n'étaient même pas organisés de lutte trotskiste, Diego Rivera à un moment donné.
Et il quitte le PC à ce moment-là. Il quitte le PC contre le stalinisme.
Et il y a une réflexion donc, sur l'art entre Breton et Trotsky, puisqu'il y a un manifeste qui va sortir. Hein, et il va y avoir. C'est marrant les rapports, puisque je présenterai un livre après, dans lequel figure à la fin le manifeste. Qui n'est pas signé par Trotsky, mais qui a été écrit par, c'est bien précisé, par Trotsky, mais c'est Diego Rivera qui le signe.
Oui, c'est ça.
Ça s'appelle Pour un art révolutionnaire indépendant.
Oui.
C'est du 25 juillet 38.
Oui.
Et qui trouve-t-on parmi les signataires de ce manifeste? On trouve Henri Poulaille.
Henri Poulaille, voilà, c'est ça.
Comme quoi, la littérature prolétarienne et la réflexion sur au-delà des continents. Il y a vraiment eu une période. Assez intense de réflexion.
Tout à fait.
Et aussi son engagement personnel politique.
Hein. Politique, oui, parce qu'à ce moment-là,
il quitte... que celui de Diego Rivera, d'ailleurs.
Voilà, enfin,
c'est un point de vue personnel. Mais...
Voilà, il quitte quand même le PC, tous les deux, hein, et ils hébergent Trotsky et sa compagne, hein, et sa femme, pendant plusieurs mois, à la Casa Azul, hein, justement, qui va devenir ce lieu culturel où beaucoup de personnalités vont passer. Mais effectivement, ils écrivent ensemble, et ça, c'est, je crois que c'est noté dans l'exposition, effectivement, ils écrivent ensemble ce manifeste, parce que c'était à l'époque
qui va être signé internationalement, et puis après
il y a
quelques mois après il y a Trotsky qui est assassiné, puis il y a la Seconde Guerre mondiale
et après il y a la Seconde Guerre mondiale c'est ça.
Bien, écoute, est-ce qu'il y a donc on a bien compris.
Je voulais revenir sur ce tableau de la fausse couche parce qu'il est à peu près unique hein, à cette époque et qu'en fait on peut voir à travers ce qu'elle a fait que l'artiste présente une anti-nativité. Ça aussi, je veux dire, comme on est à l'époque, on était dans une période, c'est peut-être un peu moins encore. Mais bon, où les femmes, en fait, la fonction principale des femmes était de faire des enfants, que se passait-il pour celles qui ne pouvaient pas en faire, en fait? Donc, du coup, elles n'étaient plus femmes du tout, elles ne servaient plus à rien, la société n'en avait pas besoin, enfin bon, voilà. Donc, elle a quand même le courage de s'emparer de ce sujet-là, alors que c'est une souffrance profonde et pour le couple et pour elle, et d'en faire un tableau sur l'anti-nativité. Le sang utérin tabou, elle nous le montre dans le tableau, elle nous montre le sang utérin, voilà. Ses cheveux complètement décoiffés, qui sont aux antipodes du genre traditionnel du nu allongé, genre l'odalisque, et en rupture complète avec... elle-même ses autoportraits en belle Tijuana. Donc, elle casse tout, elle chamboule tout, c'est une guerrière, quoi. Elle y va vraiment et elle nous montre des choses de son intimité. C'est là où j'ai dit que le processus de résilience est vraiment. Elle nous montre le chemin de début à la fin, parce qu'elle a su faire en même temps d'un événement personnel quelque chose de général, puisque effectivement le thème de l'antinativité, je crois que encore aujourd'hui on n'en est pas venu à bout, quoi, en fait, hein, pour les femmes, donc qui sont toujours vues effectivement comme celles qui doivent faire les enfants, et puis c'est un devoir, et puis c'est comme ça, quoi, hein, je veux dire, voilà. Mais bon, elle fera plusieurs fautes couches et elle n'en aura jamais, en fait, d'enfants. Voilà. Alors, ils ont aussi une vie, je veux dire, assez compliquée. Tous les deux, ils connaissent et d'un côté et de l'autre beaucoup d'autres compagnes et d'autres compagnons. Ils se séparent, ils se remarient, et voilà. Il faut que j'aille plus vite. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous engage vraiment à aller voir l'exposition où, en fait, on va voir tous ces objets qui sont sortis de la Casa Azul pour la première fois au monde.
D'accord, et de compléter éventuellement la connaissance de cet artiste.
Donc, alors, je vous cite aussi une petite phrase aussi, où elle disait « Je ne suis pas malade, je suis brisée, mais je suis heureuse d'être en vie tant que je peux peindre. »
Eh bien, merci pour cette citation. Et donc, nous allons faire une nouvelle pause musicale en écoutant un texte au copain du chat noir. C'est un texte écrit par Jules Vallès, qui est dit par Jean-Luc De Baptiste. Et c'est extrait d'un CD, Les Poètes du chat noir, qui a été réalisé en 2003.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme. et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître, ni nationalité, 89.4, à l'écoute de l'émission. Et pourtant, elle existe, cette littérature, la littérature prolétarienne. Nous avons eu une petite inversion au niveau musical, mais sans, c'était un titre, Le Déserteur et Le Dormeur du Val de Rimbaud, qui était prévu à la fin. Mais que ce soit à la fin ou au milieu, il est tout à fait d'actualité, puisque c'est un texte qu'on a choisi, un poème qu'on a choisi, et une chanson qu'on voulait entendre dans le contexte militaro-guerrier actuel, où on peut toujours craindre le pire. Alors, merci donc à Michel, hein, qui demeure dans le studio, pour cette présentation des trois émissions. Et nous poursuivons sur Radio Libertaire 89.4, et je vais aborder maintenant la présentation d'un ouvrage. Ce sont les cahiers Henri Poulaille, c'est le numéro 11. Un demi-siècle d'amitié, Henri Poulaille, Joseph Lacasse et son œuvre. Alors, pour les auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas du tout les cahiers Poulaille, Henri Poulaille est donc un membre central de la littérature prolétarienne, est décédé en 1980. Et en 1988, une association s'est créée qui a entraîné ensuite l'ouverture d'un espace Poulaille à Cachan avec les amis de Poulaille qui ont contribué à faire connaître son activité, ses textes, et il demeure un certain nombre d'inédits, mais nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Alors, cette association qui a donc présenté le fonds Poulaille sur Cachan a aussi réalisé un certain nombre de cahiers, les cahiers Henri Poulaille, qui étaient réalisés par les amis de Poulaille et par l'éditeur Plein Champ, c'est-à-dire Edmond Thomas, depuis de longues années. Et le dernier numéro était paru en 2007. Donc c'était le numéro 10, hein, il était consacré à Émile Guillaumin notamment, donc la correspondance entre Poulaille et Émile Guillaumin, paysan, et qui a été notamment, petite parenthèse, initiative du syndicalisme paysan. Voilà. Donc Bourbonnais, si ma mémoire est bonne. Et donc, on ne peut que saluer ce numéro 11, qui est un volumineux dossier, hein, qui contient 270 pages. C'est un bel ouvrage. Il y a une superbe iconographie. Et donc, moi, je salue cette publication. Alors, j'en reparlerai à la fin de la présentation de ce livre. Mais ça nous permet surtout de découvrir et d'approfondir une nouvelle facette de l'activité de l'auteur des Damnés de la Terre, qui était fortement impliqué sur le plan littéraire, mais, et ça j'avais déjà évoqué dans d'autres émissions, qui a dirigé son regard vers l'ensemble des arts venus d'en bas, le théâtre, le graphisme, le cinéma et la peinture. Ça c'est important, il est vrai que souvent, et personnellement j'ai aussi véhiculé ce point de vue à une époque, on réduit comment Poulaille à avoir été le défenseur de la littérature prolétarienne. Non, il s'est préoccupé de nombreuses formes d'expression et de création artistique, pas simplement l'écrit. Même si sur le plan de l'écrit, il est incontournable. Bon, alors là, nous avons accès, grâce à ce livre, à de nombreux documents qui témoignent du soutien permanent que Poulaille a manifesté pour l'œuvre de Joseph Lacasse, qui deviendra un adepte de l'abstraction en peinture. Alors, pour une petite parenthèse, Poulaille est anarchiste, athée, et Lacasse a une inspiration mystique. Hein, ça apparaît dans certains de ses tableaux, mais ça n'empêchera pas un demi-siècle d'amitié entre les deux hommes. Et personnellement, il y a aussi, il faut vous dire, dans ce livre, quelques inédits de Poulaille, donc, qui ne sont jamais parus, donc ça c'est assez intéressant. Alors, pour moi, ce livre, ça me conduit à réviser, du moins à nuancer, le point de vue que j'avais exprimé, pour ceux qui l'auront lu dans le numéro 1 de Fragments, à propos il y avait eu un texte qu'on avait publié, c'était La mort de Michel Ragon, hein, et on avait publié à l'époque un texte assez ancien de Michel Ragon, qui s'intitulait « Lettre à un travailleur à propos de l'art abstrait ». Et dans lequel il proposait une définition de l'art abstrait, mais qu'est la peinture abstraite, qu'elle soit le fait d'hommes préhistoriques ou d'hommes contemporains, sinon un essai d'écriture. L'écriture, ce n'est pas seulement l'abstraction du A et du B, c'est aussi le langage chiffré, le trait qui sert de point de repère, le cercle qui entoure ou exprime l'unité. Et alors, j'avais cité cette approche, pour, là aussi, parce que Ragon aussi s'est intéressé à l'art, à la peinture et à l'art abstrait, et je soulignais dans le texte que j'avais fait, dans l'hommage qu'on lui avait rendu, que le point de vue développé par Michel Ragon pouvait s'inscrire en opposition avec le point de vue de Poulaille, comme il l'était avec d'autres écrivains prolétariens qui étaient un peu allergiques à tout ce qu'on appelait peinture abstraite. Je donnerai par exemple l'exemple de Constant Malva. Constant Malva était un mineur, hein, c'était un Belge, un écrivain prolétarien, et qui déclarait dans les années 50 que l'art abstrait, c'était l'art de notre société décadente, le résultat de la désintégration spirituelle, prélude donc de la désintégration totale, c'est-à-dire un rejet. Et en fait, ce cahier, je trouve, remet utilement les pendules à l'heure, en tout cas la mienne, sur cette opposition qu'aurait eu Poulaille avec l'art abstrait. En fait, non. Et en lisant ces textes, on comprend bien l'approche qu'avait Poulaille par rapport... C'était pas du tout une négation de cette forme d'expression. Il critiquait... Oui, vas-y.
Oui, je voulais juste... dans le cadre de l'atelier auquel je participe, quand on fait une recherche sur les tableaux, je l'ai regardé un peu, je suis tombée sur un terme du grec ancien, en fait, graphène, qui signifie, pour les Grecs, mais aussi donc pour nous, peindre et écrire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dichotomie entre la peinture et l'écriture. La peinture est une écriture et l'écriture peut être une peinture, en fait. Voilà.
Absolument. Et là, c'est la question à un certain moment, parce que je vais parler de la casse après, c'est un travail sur les couleurs et sur la lumière et les couleurs. Donc, même si on s'éloigne d'une peinture réaliste, on va dire. Je reviens sur Poulaille. Donc, en 53, et ça c'est grâce à ce numéro des Cahiers Henri Poulaille, il est reproduit un texte de Poulaille à propos de l'art abstrait, dans le numéro 8 de l'information artistique. En fait, ce qui me brocarde, ce sont les critiques d'art, suiveurs qui encensent alors l'art abstrait, dans les années, au début des années 50, alors qu'ultérieurement, avant la guerre, quand Poulaille posait un regard enthousiaste pour la création de Kandinsky, par exemple, on regardait avec condescendance, avec ironie, voire mépris.
Voilà,
et en fait, c'est sans doute là d'où vient peut-être, en tout cas pour ma part, à un moment une mauvaise appréciation, c'est que ce que raille l'auteur de L'Enfantement de la Paix, ce sont les escrocs de la dernière heure, ceux qui se rallient à une peinture quand elle commence à être connue, pour des bonnes raisons matérielles et d'affaires.
Et pécuniaires.
Et pécuniaires. Et un peu comme, vous savez, ces résistants spontanés d'août 44, qui se sont érigés en juges et en bourreaux, après avoir chanté « Maréchal, nous voilà » pendant 4 ans. Donc, en défendant Joseph Lacasse, il milite pour un pionnier qui œuvre non pour le succès en soi, mais pour le plaisir de la création, la recherche de l'authenticité, et c'est ça qu'on retrouve chez Poulaille, ce qu'il recherche, quelle que soit la forme d'expression, c'est l'authenticité encore, toujours, et non la quête avide de bonnes affaires. Et ça, ce que critique Poulaille, en fait, c'est le snobisme, les artifices, et pour lui, l'abstraction, c'est un levain, c'est le terme qu'il emploie. Alors, je vais poursuivre sur Lacasse. La rencontre entre Poulaille et Lacasse remonte à 1929 et s'appuie, comme le souligne Edmond Thomas, qui est l'éditeur dans sa présentation, c'est la reconnaissance chez ce peintre d'une expression authentique, et je cite, de la franchise, l'intégrité, l'honnêteté envers soi-même, la quête d'un absolu pictural qui est qui caractérise la démarche de Lacasse. Et il y a aussi un autre point commun entre les deux hommes, c'est qu'ils sont d'origine d'extraction ouvrière. Ça, c'est un dénominateur commun qui fonde ici, qui forge un socle solide sur lequel se bâtira une amitié qui va durer un demi-siècle. Ça, c'est important, c'est-à-dire à la fois un écho à la création artistique, mais en même temps, on sait d'où on vient et on n'oublie pas d'où on vient et on revendique.
C'est ça.
Alors, en plus, une autre analogie qu'on peut constater, qui est mise en évidence dans les cahiers Henri Poulaille consacrés à Lacasse, c'est que Poulaille, en 1932, va créer le groupement des écrivains prolétariens, le GEP, de langue française, les écrivains prolétariens de langue française. D'ailleurs, il y a eu 4 numéros en grand format que nous distribuons grâce aux éditions Plein Champ qui ont été faits en facsimilé. Et Lacasse va fonder, lui, l'équipe, groupe, je cite, de jeunes artistes de toutes tendances, qui va exposer en France, disposera à Paris, dans le quartier Montparnasse, d'une salle d'exposition. Je rappelle que Poulaille avait aussi créé le musée du soir, où des gens vont faire des causeries, expositions, etc. Donc, des démarches parallèles qui finissent par se rejoindre, et c'est ça qui est intéressant dans ces parallèles-là. Il y aura ainsi un encart publicitaire dans une revue qui s'appelle Jean-Jacques. En 1939, quand va être créée la revue L'Équipe, elle est créée en 1er juin 1939. Il y aura 3 numéros et on verra. Les 3 numéros sont reproduits dans les cahiers. Donc c'est aussi une source inédite qu'on peut peut-être trouver, mais à des prix de ouf sur les sites internet, comme beaucoup spéculent surtout. Donc ces 3 exemplaires de L'Équipe fondée par Lacasse sont reproduits dans le cahier. Évidemment, là, il n'y aura que 3 numéros, puisqu'ils se créent en juin-juillet 1939. Donc le dernier numéro est daté du 25 juillet 1939. On comprend aisément pourquoi il n'y aura pas de numéro 4. Ce cahier donc, nous fournit l'itinéraire du groupe qui a été constitué en 1937. Il rend compte de son activité sur le plan des expositions réalisées, des causeries, comme on disait alors, qui étaient préparées et assumées. Et nous avons accès à des textes de Poulaille sur Cézanne. Et aussi, de manière parallèle, mais bon, je voulais montrer, sa conception dans un entrefilet du numéro 1 du bulletin L'Équipe, de comment il considère le travail collectif. L'Équipe, il dit, c'est se sentir les coudes. Il dit pas, je sais pas si c'est une faute de frappe ou pas, mais je trouve que l'expression se sentir les coudes, ça a aussi quelque chose d'aussi fort que se serrer les coudes. Oui. Il dit, c'est se sentir les coudes, c'est la coordination des efforts, c'est la peine partagée, c'est aussi la joie partagée. Donc on voit la conception plurielle du travail. Poulaille, c'est un homme de revue aussi. Et le partage du travail en commun, c'est fondamental pour lui. Et donc il y aura un directeur littéraire qui va être Poulaille et un directeur artistique qui sera Lacasse. Donc voilà. Au travers des ambitions affichées de L'Équipe, nous visualisons le caractère pluriel du positionnement de Poulaille. Je cite, s'intéresser aux différentes activités des domaines de la littérature ou de la plastique, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, l'architecture, les milieux artisanaux. Les milieux artisanaux, ça voit, tu évoquais tout à l'heure l'art populaire.
C'est ça.
Et Michel Ragon fera un travail aussi sur ces questions comme forme de création venue d'en bas. Et bien sûr, un ultime pied-de-nez du Gavroche parisien qui demeurera, Poulaï, c'est la revue sera le bulletin des activités née en dehors du signe de l'argent. Mmh. Alors, donc, qui est ce Joseph Lagasse? C'est un peintre belge qui est né le 5 août 1894 à Tournai. Il sera naturalisé français en 1947. Mmh. À 12 ans, il va quitter l'école. Et il va devenir laveur de tuiles. Il va fréquenter brièvement l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, en Belgique. Mmh. Et ensuite, il va faire, là aussi, parallèle avec l'histoire des autodidactes, de Poulaï, de Ragon, et d'autres, et dans tant d'autres. Il va faire différents métiers. Il sera lampiste dans des carrières. Mmh. Les lampistes, c'est les mômes qui donne les lampes aux mineurs, oui. Très tôt. Il sera plombeur de sac, rompeur de pierre. Et ce livre, ce cahier, nous permet d'appréhender son parcours pictural de cet artiste qui s'est tenu, je cite, « loin des chapelles, des cénacles », ça me rappelle quelqu'un dont tu as parlé tout à l'heure,
c'est ça.
Des cinq de rédaction, des bistrots, où se créent et s'entretiennent d'illusoires réputations. Mm. Donc là, on a vraiment... quelqu'un qui va tracer son sillon de manière autonome. Alors, il va avoir une thématique diverse. Hein. Il va y avoir des créations d'inspiration mystique avec des Christ, mais des Christ qui renvoient plutôt au Christ qui chassait les marchands du temple. Hein. Mmh. Et puis, il va aussi ensuite aboutir à une méprise d'une couleur expressive et qu'il y a vraiment des reproductions en couleur qui sont très intéressantes.
Oui, je crois que ça, il faut que tu insistes là-dessus parce que oui.
Oui. Donc, on voit à partir de cette revue tous les aspects, toutes les étapes de son parcours. Hein. Je vais terminer parce que le temps nous est compté en citant la conception de Lagasse, c'est lui-même qui parle de son travail. Il dit « Le créateur est somnambule, un mathématicien inconscient. Il crée un canon qui lui est propre. S'il est grand, il imposera sa vision tôt ou tard. S'il est faible, il suivra le troupeau. » Et donc ensuite, il aura ce travail artistique. Il aura également la sculpture sur bois, le travail de la céramique. Des œuvres sont visibles pour la France à Paris, au Musée national d'art moderne de la ville de Paris. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour la dernière pause musicale. Je souligne simplement que ce numéro 11 est volumineux et avec des reproductions vraiment très intéressantes. Encore un excellent travail de l'équipe des Amis de Plainchamp et d'Edmond Thomas. Le dossier a été rassemblé par Jean-Paul Morel et Patrick Ramsayer des Amis de Poulaï. Il y a une chronologie, une bibliographie, 110 illustrations en noir et blanc et couleur. Bon, le prix est un peu cher, je le dis, c'est 30 euros, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en cadeau, et je pense que quand on voit certains bouquins qui sont à 200 pages et qui sont vendus 20 euros, je crois que le prix reste très... n'y a pas vogue sur la marchandise, quoi. Il y a vraiment un effort. Voilà. Donc, je ne vous parlerai pas du numéro 6, mais on se reverra d'ici là, puisqu'on se revoit le 15 décembre, si ma mémoire est bonne. Donc, nous allons nous quitter avec une dernière pause musicale. Nous allons écouter Les Amis du Chat Noir, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un texte de Jules Vallès, pour en finir avec l'émission d'aujourd'hui sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni mène, ni nationalité. À bientôt.
L'autre soir, à l'heure de la verte, je suis entré dans votre cage à perroquets pour en étrangler un. J'aurais bien dû les étrangler tous. Le poète qui ressasse dans son gros bec toutes les foutaises du cliché, le peintre sempiternel aux pinceaux estropiés par les vieilles cisailles de l'école et le musicien de barbarie qui promène son prix de Rome comme un écriteau d'infirme. De la blague, tout cela, camarade. Car pendant que vous chantez le bleu, les autres broient du noir, et pendant que vous faites de l'art, d'autres font de la misère. Tas de pitres en redingote, dont les boniments couvrent comme l'orgue de Fualdès les clameurs des assassinés. Eh bien non, tête vide, ventre de son, Il n'y a pas que Montmartre. Le moulin de la Galette n'est pas la clé de voûte de l'édifice social. Il y a encore les écoles et les maisons de fous où l'on broie les cervelles, les usines où l'on écrase les muscles, farines épouvantables, pâtes humaines que pétrissent à leur gré la bureaucratie et le capital. Des soupiraux de la vieille bâtisse où nous logeons, jusqu'à ce qu'on la démolisse, sortent les hans des boulangers en train de battre de l'homme. Poète, mets ce cri dans tes vers. Peintre, trempe tes pinceaux dans ce sang. Musicien, note le bruit de cet écrasement. Au-dessus de votre art, il y a la question sociale. Et au-dessus de votre cabaret Louis XIII, il y a l'église du Sacré-Cœur qui grandit sur vos crânes. Que la pensée qui est dedans éclate comme une mine en voyant au diable des morceaux de Jésus sanguinolent. L'heure est venue où toutes les idées doivent être tranchantes, comme des épées. Dans cet air orageux et rouge où grondent les révoltes prochaines, le jeu m'en foutisme ne saurait vivre. Copain Salis, transportez donc pour voir votre carriole d'arracheur de boc sur le bord de la grande Seine jaune. Ça sera bien le diable si vos poètes ne sentent pas passer dans leurs cheveux un vent de colère en écoutant la voix du fleuve, ce cimetière qui marche. Eût dit Pascal. Un soir, je vous le prédis, les vers, les musiques et les pinceaux s'arrêteront hagard au cri suprême d'un suicidé.
Muse, toi superbe, froid monument, linceul d'or sur des ossements. Si j'y venise, là mon pauvre cœur est resté. S'il doit m'en être rapporté, Dieu le conduise. Mais de quoi vais-je ici parler? Que ferais-je à me désoler? Quand toi, cher frère, ces lieux où j'ai failli mourir, tu t'en viens de les parcourir pour te distraire. Frère, ne t'en va plus si loin, d'un peu d'aide j'ai grand besoin, quoi qu'il m'advienne. Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main serre la mienne.
Anda, hija, vete que vení. Para el globo. Claro, se me olvidaba. Javier. 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 Mare do ra ra ro ma re do na na ma re no na ni do ba ho ba ra 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 Javier mare do ro ma fo ma ro ni do ma ha ma bo ba.